La commune est la cellule vivante qui forme l'unité de base de la vie politique et de laquelle tout procède. La citoyenneté, l'interdépendance, le fédéralisme et la liberté. L'auteur de cette phrase s'appelle Murray Bookchin, penseur et militant écologiste, anarchiste états-unien, qui a, parmi d'autres idées, théorisé le communalisme, également appelé municipalisme libertaire, c'est-à-dire la démocratie directe exercée au niveau de sa commune ou de son quartier. Et c'est le sujet de cette émission, pour laquelle je suis très heureuse de recevoir Pnar Selek.
Bonjour.
Sociologue, militante, antimilitariste, féministe, écrivaine, turque, turco-française, vivant en France depuis quelques années. Vous aviez déjà rendu visite à Mediapart l'année dernière pour votre livre. Et là, cette fois-ci, vous écrivez la préface d'un livre consacré à Bookchin par Floréal Romero aux éditions du Commun, qui s'appelle « Agir ici et maintenant ». Et à vos côtés, Aurélien Bernier.
Bonjour.
Bonjour, essayiste, militant, militant notamment pour la démondialisation. C'est un des sujets qu'on va sans doute aborder tout à l'heure. Et vous, vous publiez L'illusion localiste aux éditions Utopia. Et donc, vous allez tous les deux débattre de la pertinence ou non de cette échelle locale, communale et voire de quartier. Et Fabien Escalona, journaliste à
Bonjour.
Mediapart, et qui va se joindre à moi pour vous interroger. Alors, avant d'entrer dans le vif de la discussion, quelques éléments de présentation, puisque Bookchin est à la fois un auteur et un militant influent, mais encore assez peu connu en France. Donc, quelques éléments biographiques. Né pauvre dans une famille juive du Bronx, à New York, en 1921, Murray Bookchin a milité très jeune et a traversé plein d'espaces de la gauche états-unienne, communiste, trotskiste, puis anarchiste, puis s'étant éloigné de la plupart de ces courants de gauche et écologistes à la fin de sa vie, s'est installé dans le Vermont, donc l'État de Bernie Sanders, où il a créé notamment l'Institut d'écologie sociale, un centre de recherche et d'expérimentation, et il est mort il y a un peu plus de 10 ans, en juillet 2006. Alors, ce qu'on peut peut-être dire juste en introduction de notre discussion, c'est que, en fait, Bookchin, effectivement, s'est retrouvé en porte-à-faux avec plein de mouvements de gauche au cours du XXe siècle. Et ce qui fait que, finalement, c'est quelqu'un qui est resté un peu isolé, un peu solitaire dans ses positions politiques, notamment sur la fin de sa vie. Mais c'est peut-être ce refus, en fait, des pensées dogmatiques et la manière qu'il a eu de sans arrêt articuler anticapitalisme, écologie, démocratie, qui a permis de que lui a donné la source d'inspiration pour cette théorie du municipalisme libertaire. Et la raison pour laquelle, avec Fabien, on a souhaité organiser cette émission aujourd'hui dans le contexte des municipales, c'est de se dire que voilà, c'est une perspective radicale et fort intéressante dans ce contexte d'élection sur l'importance de l'échelon local. Alors, la commune, le quartier, au-delà de ce que tentent les listes citoyennes aux élections municipales, Bookchin, lui, il a proposé ce qu'il a appelé, je vais le citer précisément, une nouvelle politique civique comme un contre-pouvoir à l'État, une décentralisation des décisions au niveau communal, et pour créer donc une véritable démocratie directe. Ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter quelques secondes de propos de Murray Bookchin qui ont été tournés à la fin de sa vie. Il est dans son bureau, un peu avachi sur son siège, et il nous explique ce qu'est le communalisme.
An attempt on a neighborhood basis, on a civic basis, in the sense that I'm talking of quasi or actual urban areas, where people can get together into assemblies on the basis of a number of broad social issues, a point that would have to be raised in the moment. Broad social issues meeting the way, well, in a sense, resembling the way the town meetings of New England ideally existed, and in fact actually existed for a time. I'm not even talking right now of purely hypothetical notions. I'm talking right now of actual things that took form in history, that took shape in history, and that have been on and off discussed, but not as fully as they should be. In such town meetings, one would try to have paralleling what are the institutions of the state, or at least the basic institutions of the state, real institutions, libertarian institutions of the people, at first seemingly coexisting with the state.
Donc, ce communalisme, Pnat Selek, ainsi nommé en hommage à la Commune de Paris, hein, de 1871, c'est ce qu'explique Floréal Romero dans le livre que vous préfacez. Est-ce que cette idée d'agir depuis la commune ou depuis le quartier, ça vous paraît une idée moderne et opérante aujourd'hui?
Bonjour. Et ça me met beaucoup de commencer par la discussion de la commune. Je vis en France depuis à peu près 5 ans. Et la première fois que j'étais venue à Paris, j'étais courue, j'ai regardé dans les rues, j'ai commencé à chercher les traces de la commune. Je n'ai rien trouvé, sauf le mur des fédérés, très peu de traces. Et j'ai essayé de comprendre ça, et j'ai essayé de créer mes traces autour de ça. Et après, je sais bien, c'est pas étonnant. Je ne suis pas étonnée, seulement j'ai été déçue, mais je suis très contente qu'on salue les communards en parlant. Peut-être leur expérience, est-ce que ça peut nous inspirer aujourd'hui? Je pense que il n'y a pas une chose qui nous inspire aujourd'hui, il y a plusieurs choses. On a une richesse de l'histoire et on prend des différentes expériences qui peuvent nous intéresser. Par rapport à Bookchin, moi j'ai lu beaucoup de livres de lui parce que j'avais de la chance, je n'ai pas grandi en France. Et en Turquie, il y avait 10 livres quand j'avais 25 ans. Donc on lisait beaucoup, mais on critiquait aussi. Par exemple, vous pouvez voir dans le dernier livre de Jeanette Peel qui est traduit l'année dernière.
Qui était la compagne, épouse de Bookchin.
De Bookchin, et dans ce livre qui est sorti dans les éditions Amourier que j'ai préfacé aussi, vous voyez aussi que lui, il parlait beaucoup du féminisme, etc., mais dans sa vie privée, pas du tout. Et surtout, à la fin de sa vie, il n'était pas très féministe. Donc, on n'était pas bookchiniste. Et je crois que peut-être après, on va discuter avec Auréliane par rapport aux 60, des années 60. Qu'est-ce que ça nous a apporté, les plusieurs multiplications des sources d'influence philosophique. Et je pense qu'on n'a pas, besoin d'isme maintenant. Mais écologie sociale, le communalisme, ça vient des expériences qui étaient réprimées par la violence, comme en Espagne, comme dans d'autres endroits, comme la commune, mais qui nous donne une qui est plus riche maintenant, qui est enrichie par le féminisme, par l'écoféminisme et par d'autres idées aussi libertaires, mais qui réfléchit sur comment faire. Oui, on va changer le capitalisme, mais comment? Et est-ce que les moyens, quelle est l'influence des moyens sur la fin? Et est-ce qu'on va faire une révolution jacobin, que tu parles aussi dans ton livre, et est-ce qu'on va faire une révolution par le haut, ou on va révolutionner, et est-ce qu'on va penser multidimensionnel? Il n'y a pas, la liberté n'a pas une seule dimension. Donc il faut comment articuler les différents rapports de domination et comment s'épanouir. Mais dans le communalisme, ce que je pense, il y a quelque chose qui est important, comment vivre ensemble, comment créer une collectivité, tout en permettant à la créativité, à l'épanouissement de chacune ou chacun, et à la spontanéité. Et le communalisme, ou le municipalisme libertaire, ou autogestionnisme, etc., ça nous apporte plein de différentes théories, pas que de Bookchin, et d'expériences. Et dans les luttes aussi, pas seulement après la révolution, mais dans les luttes qui créent une culture de faire, qui est importante à mon avis.
Aurélien Bernier, est-ce que vous, en tant que militant, et Jade l'a dit tout à l'heure, vous avez pointé la mondialisation comme voilà, un phénomène qui atrophie la souveraineté populaire au meilleur sens du terme. Est-ce que vous, le communalisme ou cette approche-là, qu'elle soit de Bookchin ou d'autres, est-ce que ça fait partie de votre culture militante, pour le coup, des sources d'inspiration, en tout cas, ou est-ce que c'est plutôt le pôle jacobin qui vous attire?
Moi, j'ai plutôt une culture jacobine. Alors, bon, j'ai lu Bookchin et j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes. Et moi, je trouve que le communalisme a une dimension très forte qui est la gestion directe des affaires locales et qui est quelque chose de très sérieux et très nécessaire. Donc quand j'écris ce livre L'illusion localiste, c'est pas du tout dans le but de désinguer ce genre de proposition. Seulement, il y a une contradiction entre ce discours localiste qui parle de se réapproprier les questions politiques à l'échelle locale et la réalité actuelle qui est celle d'une économie mondialisée et avec une concentration des pouvoirs qu'on n'a jamais connue par le passé. Et en fait, voilà, c'est une réflexion autour de alors l'histoire, effectivement, on a parlé de la commune, mais on peut aussi parler du socialisme municipal, puisqu'à une époque, les socialistes qui étaient d'authentiques révolutionnaires, pas comme ceux de maintenant, eh bien, se sont confrontés à l'action locale et même à la gestion de municipalités, avec l'ambition de changer les choses aussi localement. Et ils se sont retrouvés confrontés, alors pas à la mondialisation, mais déjà à un ordre économique et social bourgeois qui les a empêchés d'agir. Voilà, c'est ma réflexion est autour de ça et aussi de la communauté politique. C'est-à-dire à quelle échelle on doit essayer de créer une communauté politique avec des instruments, comme les services publics, par exemple. Et je crois que là, il y a une vraie question qui est évacuée ou maltraitée par certains discours localistes, pas tous. C'est-à-dire que effectivement, se réapproprier un certain nombre de choses par l'action locale, c'est essentiel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rejeter des constructions, notamment les services publics, qui font une communauté politique nationale.
Et peut-être que pour avancer dans la discussion, c'est intéressant de rentrer un peu dans le détail en fait du dispositif, puisque la proposition de municipalisme libertaire n'est pas uniquement la proposition de prendre le pouvoir et de l'exercer à petite échelle, c'est aussi une vision, en fait, de la démocratie et de formes de démocratie directe. Et notamment, dans ce que dit Murray Bookchin, c'est très clair que c'est un processus. Lui, il parle de processus vivant. Et il dit que ça a une forte dimension d'éducation et d'éducation populaire au sens plein du terme, dans la mesure où, dans son idée, puisque le citoyen ne délègue plus, en tout cas, s'il délègue, il délègue à une assemblée générale dans laquelle il peut y avoir des mandats impératifs, mais donc il délègue le moins possible. L'idée de Bookchin, c'est que le citoyen se forme, en fait, par sa participation aux prises de décision, avec des assemblées générales très régulières, une forme des réunions quotidiennes dans les rues, dans les parcs, sur les places. Il y a vraiment l'idée d'une délibération permanente. Et, dit-il, tout ce processus pourra créer un peuple. Est-ce que cette idée d'une effervescence, en fait, effervescence de délibération, est-ce que c'est un aspect qui vous intéresse, Pinal ?
Oui, ça m'intéresse. Et je pense que ce livre que je viens de lire est assez intéressant parce qu'il montre, c'est une critique de décentralisation actuelle et que le système impose aussi à toutes les échelles, donc il montre aussi comment on met cette décentralisation dans une centralisation du pouvoir économique et politique. Donc ça c'est bien, mais quand il commence à parler des luttes et des critiques, des critiques radicales sur les sociétés, je trouve un peu superficiel parce que il met tout dans le même sac. Aussi, il y a une notion localisme, et tu essaies de voir plutôt avec ce prisme du localisme. Donc ça ne suffit pas parce que, par exemple, ces propositions ne parlent pas que de localisme. Il y a du localisme dedans, Mais quand on oublie ses propositions sur la structure, parce que dans les idées anarchistes, pas que Bookchin, mais Bookchin parle beaucoup des structures et d'une nécessité d'une structure constitutionnelle. Ouais. Il parle beaucoup d'une structure constitutionnelle, mais c'est plutôt d'une fédération, ça peut être des coopératives, des communes, c'est plutôt un système confédéral, disons. Mais comment permettre, pas seulement au ce qui est au local, mais à l'individu, aux femmes, à toutes les diversités, de s'épanouir et s'organiser entre elles ou entre eux. Donc c'est ça qui est important, de réfléchir contre l'homogénéisation. Quand j'ai promené après la chute des murs dans les pays socialistes, et j'ai vu tous les bâtiments, tout ce qui est créé. Oui, l'égalité, c'est important, égalité. Mais qu'est-ce qu'on a créé au lieu du capitalisme? C'est vraiment très triste. Et on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas vivre la liberté. Donc, la liberté, les libertés, et mettre en pratique les libertés de tous les jours, par rapport à l'économie, par rapport à la création culturelle, par rapport à l'ordre social général. Donc comment on peut créer et on peut donner la force à tout le monde, à toutes les échelles, et sans les centraliser, sans les homogénéiser. Et quand vous pensez l'expérience de la Chine, vous pouvez voir que comment un mécanisme, un dispositif peut devenir le contraire. Donc comment ne pas créer ce dispositif? Comment créer une autre façon de vivre, de penser? Donc c'est plutôt ça que je prends.
Oui, Aurélien, peut-être pour vous permettre de répondre, si j'essaye de reformuler, en fait, il y a cette idée chez Bookchin qu'au fond, on peut faire un peuple, comme le citait Jade, dans un modèle confédéral que lui, il oppose vraiment assez nettement au modèle de l'État-nation avec ses tendances à l'homogénéisation, comme vient de le souligner Pinard Selleck. Comment vous appréhendez cette dualité-là? Est-ce que ça vous parle?
Oui, ça me parle, parce que quand on a eu un certain nombre d'expériences d'État-nation qui ont mal tourné, on ne peut être qu'interpellé par ça. Ceci dit, je pense qu'il y a la possibilité de faire peuple et d'être une communauté politique homogène, donc d'avoir des règles communes, d'avoir des services communs, d'avoir des mécanismes démocratiques de délibération avec un État et avec des espaces locaux de démocratie directe, et que les deux sont absolument pas incompatibles. Moi, ce qui m'interpelle dans ce qu'écrit Bookchin, mais d'autres théoriciens du local, c'est qu'on a l'impression qu'on parle d'un monde pour après l'effondrement.
C'est-à-dire dans la conclusion.
Voilà. C'est-à-dire que, alors, soit après l'effondrement, soit après la révolution, ce qui revient un peu au même. C'est-à-dire que pendant, à une époque, voilà, la perspective, c'était la révolution. On renversait le pouvoir et puis on pouvait repartir quasiment d'une page blanche. Aujourd'hui, on envisage aussi l'effondrement complet, mais si vous voulez, intellectuellement, ça amène à cette idée que on pourrait recréer les choses. Alors, je dirais presque à partir de rien, c'est un peu provocant, mais voilà, à partir d'une situation où on aurait effacé les rapports de pouvoir actuels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut défaire les mécanismes de la mondialisation et effectivement créer de l'autogestion, créer de la démocratie, faire en sorte qu'on puisse débattre de tout et tout le temps. Et je pense que ce schéma fédéral ne peut pas se mettre en œuvre maintenant parce que on a cette superstructure de l'économie mondialisée, et puis on a évidemment, et ça je l'accepte tout à fait, l'État libéral qui s'impose à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un État démocratique tel qu'on peut l'imaginer.
Oui, et notamment, vous pointez beaucoup les contraintes juridiques qui existent dans cet ordre-là, dans votre livre. On voulait en profiter justement parce que vous dites que ça viendrait après la table rase, mais il y a quand même des expériences qui, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, essayent de faire vivre cet idéal communaliste. J'aimerais votre avis, peut-être à tous les deux, en commençant par Pinard Sélec, sur, on va prendre deux expériences qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui, dans l'esprit, peuvent faire penser à cet idéal communaliste. À quel point ça s'approche de l'idéal communaliste? Je pense aux mairies rebelles en Espagne, qui ont beaucoup fait parler d'elles, avec des démarches politiques assez originales par rapport aux partis traditionnels et la volonté d'impliquer les citoyens. Et puis, un exemple beaucoup plus radical, qui est celui du Rojava, qui, lui, s'inscrit explicitement dans la zone du Kurdistan, hein, qui s'inscrit explicitement dans les pas de Bouchkine. Comment vous situez ces expériences-là par rapport à cet idéal communaliste?
Je veux bien citer le livre de John Jordan et Isabelle Frémont. Il est sorti il y a longtemps, mais il y a plusieurs éditions.
Le sentier
de l'utopie, oui. Et elles font un voyage en regardant plusieurs expériences comme l'Espagne ou les autres et en les mettant dans un même livre, mais tout en questionnant toutes les expériences. Donc, et ce qui est intéressant de voir, qu'elle essaye de voir comment on révolutionne. Donc, le terme révolutionner, ça me plaît beaucoup. Et c'est pas après les révolutions qu'on crée une alternative. C'est pas possible parce que moi, je parle beaucoup. Le livre de Ionesco, le rhinocéros, me touche beaucoup. Et parce qu'on devient rhinocéros dans ce système. Quelquefois, notre dent devient rhinocéros. Ce système nous imprime. Et tout d'un coup, on lutte contre ce système, on crée des mécanismes pour vraiment abattre ce système. Et ce mécanisme nous détermine aussi. Et après, on ne peut pas créer par le haut une autre alternative non plus. Donc il faut toujours dire, agir ici, mais maintenant c'est bien, agir contre, mais agir pour, en même temps. Et si on reporte tout ça, on peut pas créer un autre monde, à mon avis. Donc, maintenant, dans le monde, comme le livre de Isabelle et John montre, il y a plusieurs sortes de révolutions. Disons, je ne suis pas sûre s'ils vont gagner à la fin. Mais on voit que de plus en plus de groupes qui essaient de coordonner entre eux. Et il y a un réseau, il y a une structure. Mais pas une structure qu'on connaît depuis des siècles, mais de nouvelles formes de délibération, des échanges, etc. Et pour Rojava, c'est un peu difficile parce que c'est dans une zone de guerre. Et moi, en tant qu'antimilitariste, je sais très bien que même si vraiment il y a une volonté de mettre en place une nouvelle chose, et ils disent beaucoup, ça me paraît intéressant de suivre cette expérience parce qu'ils disent comment on peut lutter contre l'État en dépassant l'État. Donc, c'est les Kurdes qui disent ça. Donc, il faut qu'on dépasse l'État. On ne peut pas seulement abattre l'État si parce que l'État, c'est nous, ils disent. Parce que nous devenons l'État. Parce qu'on crée l'État. L'État, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. Ce n'est pas tombé du ciel. La nation non plus. Et c'est des constructions sociales et que nous faisons partie. Donc, comment on peut dépasser? Donc, toutes ces expériences-là, moi, je pense qu'on a beaucoup besoin de traductions. Le français est assez faible pour cela. On a beaucoup besoin de différentes traductions pour mettre ensemble ces expériences parce que, comme nous savons bien que le capitalisme multinational et néolibéral est très transnational, et c'est eux qui sont mondialisés, donc ils sont très centralisés. Donc nous devons faire en sorte que, sans créer un parti politique qui veut libérer tout le monde, nous pouvons nous libérer, mais en créant une autre structure et qui, moi je pense qu'on est plus fort par rapport aux années 60-70. Oui, des années 60-70, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. L'école Francfort, Deleuze, Foucault. C'est pas seulement Bouchkine ou quelques anarchistes, mais il y a une critique sur les détails de la vie et qui montre les liens invisibles sur tous les mécanismes de pouvoir. Et maintenant, on a aussi des expériences. À mon avis, les traductions et tout mettre ensemble et réfléchir et ne pas être réducteur, ne pas être trouver des réponses faciles. Voilà.
Moi, et d'autant que, et ça, pour vous relancer la question, Aurélien, c'est que dans les textes de Bookchin, il y a beaucoup de théories. Et c'est vrai que ça lui a été aussi beaucoup reproché d'avoir une vision théorique et trop abstraite, en fait, de comment le pouvoir est exercé concrètement. Mais en réalité, il a aussi été assez loin dans la description de toute une série vraiment de modalités d'organisation. Et notamment, je voudrais citer ça avant de vous redonner la parole, Aurélien, sur la question de l'économie. Parce qu'il insiste très fortement, comme le disait Pinard au début, sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'organiser différemment les institutions du pouvoir, il s'agit également d'organiser différemment l'économie. Et donc notamment, il insiste beaucoup sur l'importance de la municipalisation de la propriété des moyens de production, par opposition à la privatisation ou même à la nationalisation des moyens de production, puisque effectivement, c'est une critique de l'État. Donc, il veut propriété à plusieurs collectives, mais pas dans les mains de l'État. Et donc, avec l'exemple des terres, des entreprises, et qui sont par ailleurs des expériences qu'on a vues, y compris très récemment en Europe et même en France, des expériences de municipalisation, par exemple, de l'eau. Alors, certes, pas dans un objectif anarchiste, mais en tout cas très clairement dans un objectif de redonner du pouvoir de décision à la collectivité sur des ressources primaires, l'eau, l'énergie, etc. Est-ce que du coup, ça, si on le regarde de ce point de vue-là, Aurélien Bernier, est-ce que ça ne donne pas une dimension extrêmement opérante, en fait, et concrète à cet échelon local ? Vous qui parliez des services publics tout à l'heure.
D'abord sur la question... sur cette question des expériences, j'allais dire presque des ZAD, parce qu'il y a un peu de ça derrière, de municipalisme, c'est des choses essentielles. Quand on est prisonnier dans un État libéral et dans une mondialisation néolibérale, on a besoin de faire. Et ce titre, agir ici et maintenant, ça ne pose aucun problème de principe. Nous n'avons que ça pour agir. C'est-à-dire, le système ne nous laisse que ces marges pour agir, pour trouver des nouvelles formes démocratiques ou économiques. Donc, effectivement, il faut prendre. Maintenant, la question,
Est-ce qu'il nous laisse cette place ?
Oui, il nous laisse des micro-places. On a encore le droit de faire des AMAP, on a encore le droit
c'est pas
de
AMAP,
faire...
Le programme des Landes, c'est pas AMAP.
Non, mais...
Ou une Longue-Maille, c'est pas AMAP.
Oui, on prend des espaces et on nous laisse aussi des petits espaces dans les interstices. Mais le problème, c'est qu'on se confronte à une économie mondialisée et que, c'est pas aussi simple que ça peut être décrit dans la phrase que vous avez citée. Alors, comme le disait mon camarade Frédéric Lornon dans son dernier livre, les planches et les vis qui servent à faire les cabanes de Notre-Dame-des-Landes ou celles des ronds-points des Gilets jaunes sont issues de l'économie mondialisée. Et donc, c'est à ça qu'il
faut
s'attaquer.
Mais justement, ça peut être considéré comme une réponse à ça aussi. C'est un peu l'œuf et la poule. C'est pas parce que ça vient de l'économie mondialisée qui, de toute façon, est partout que cette économie mondialisée ne fournit pas, y compris les outils, pour la confronter. Vous voyez, c'est un argument qui se retourne.
Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sortir de ce capitalisme néolibéral qui a pris cette forme mondialisée. Donc, ça veut dire qu'il faut penser l'affrontement avec les puissances économiques. Et donc, je pense qu'on a des espaces de résistance, de construction d'alternatives qui sont essentiels et qui se passent au niveau local. Et je pense qu'il faut penser une autre échelle d'affrontement avec les grandes puissances économiques. Parce que même si on multiplie ce genre d'initiatives, qui sont encore une fois de la pratique quotidienne de la démocratie, de l'expérimentation, et qui nous permettent de penser d'autres relations sociales, d'autres formes d'économie, eh bien, ça ne va pas se généraliser dans les années ou dans les décennies qui viennent. Et ça se heurte à des problèmes matériels, hein, parce que effectivement, on peut avoir des expérimentations qui se font à la campagne, qui se font pas en ville, qui vont pouvoir se faire dans certains pays et pas dans d'autres, et que ça ne répond pas à cette question de l'affrontement avec les grandes puissances.
Avec un système, quoi, une question d'échelle.
Et je pense qu'on ne sortira pas, sauf si on postule que le système va s'écrouler de lui-même. Et ça, je pense que quoi qu'on se dise sur l'effondrement écologique ou l'effondrement économique, quoi qu'on en pense, on n'a pas de boule de cristal. Et si on postule que le système va s'effondrer et qu'on pourra reconstruire après, on prend des risques. Donc cette question de l'affrontement est essentielle.
Mm-hmm. À mon avis, si on est en face d'un pieuvre, bien évidemment qu'il y a plusieurs tentacules qui sont liés. Il faut faire une lutte dans plusieurs fronts, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, la philosophie, la pensée de Murray Bookchin, c'est déjà une critique contre les écologistes, contre les environnementalistes, qui disent que sans mettre le lien, sans faire une vraie lutte anti-système, vous ne pouvez pas réussir, vous allez changer que la vitrine. Donc vous allez même nourrir le système. Donc, mais pas que Bookchin. Maintenant, on parle de Bookchin, mais plein d'idées d'anarchistes ils disent la même chose. Et à mon avis, il faut tous penser, tout est possible. Mais il ne faut pas dire que toutes ces luttes locales ne vont servir à rien et on ne les permet
pas.
Mais
j'ai jamais dit ça.
Oui.
Je dis le contraire depuis le début et je dis le contraire dans mon livre.
Ce que vous dites quand même, c'est
que c'est nécessaire.
C'est des interstices.
Non,
et
c'est
pas la bonne
échelle. Absolument nécessaire, mais ça n'est pas suffisant.
Alors, personne ne pense que c'est suffisant. Il faut multiplier et il faut trouver des structures qui les relient, etc., etc. Mais sans tomber dans le piège que nous avons vécu depuis 100 ans avec le socialisme, avec le marxisme-léninisme. Donc, à mon avis, il faut permettre à toutes ces différentes luttes à s'exprimer et à trouver le lien qu'il le faut. Mais d'abord, ce système ne permet pas, ne laisse pas vraiment facilement à l'espace, ni aux Gilets jaunes, ni au Rond-Point, ni au Notre-Dame-des-Landes. Et il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de résistance, et on prend avec une vraie courage et aussi une vraie intelligence. Et donc, moi, je vais dire une chose. J'ai lu dans ton livre, tu dis qu'une nouvelle gauche se structure dans les années 60, assume les idéaux du libéralisme culturel, notamment de la liberté individuelle. Et moi, j'ai pensé, j'ai grandi dans un pays où la gauche révolutionnaire ne permettait pas ni aux féministes, ni aux antimilitaristes, ni aux anarchistes de s'organiser. Ils disaient toujours libéral. C'était le nom que j'entendais quand j'étais gamine. Mais quand on va essayer de mettre en question quelque chose en dehors de ça, on nous disait libéral. Moi, je pense pas que, même si le libéralisme essaie de récupérer ou utiliser les notions, etc., moi, je ne peux pas les laisser à eux. Alors, je ne veux pas dire que s'ils démantèlent l'État, moi, je ne veux pas garder l'État, parce que l'État-nation aussi était une construction qui est lié aussi à tous ces rapports de domination. Donc, moi, je ne veux pas être déterminée par ce système, je sais que je suis déterminée, mais il faut que je crée d'autres choses que je ne pense pas maintenant. Donc, je ne peux pas créer tout seul, ce serait une création collective avec la participation de tout le monde.
Enfin, on va laisser Aurélien répondre, mais du coup, j'en profite parce qu'il me semble que si Piner a eu cette lecture du bouquin, c'est parce que vous y allez quand même fort et vous avez ce passage-là où vous dites « la classe dirigeante a créé une illusion localiste, a créé la décentralisation ». Or, ces aspirations-là, alors on les appelle libérales ou pas localistes, elle précède en fait cette offensive-là qui passe par la décentralisation.
Non, mais on ne parle pas tout à fait de la même chose.
C'est ça qu'il faut peut-être clarifier à nouveau.
En fait, il y a un autre piège. Vous parliez du piège de l'État. Il faut considérer aussi quand même que dans un État comme la France, on a des bribes d'État social qui existent encore et qui sont en train d'être démantelées. Donc il y a une vraie question, est-ce qu'on accepte qu'elles soient démantelées, y compris au prétexte de décentraliser et de faire du localisme. Et en fait, c'est le piège dans lequel on est, avec un discours institutionnel qui se développe aujourd'hui et qui vante l'action locale, c'est-à-dire qui va dans le sens de cette décentralisation, parce que, d'une part, le pouvoir économique s'étant concentré, on a vécu la mondialisation, et à une époque, on nous parlait de mondialisation heureuse. Je pense que tout le monde a fait une croix dessus, et tout le monde a bien compris qu'on n'aurait pas la mondialisation heureuse. Donc, il faut trouver une autre perspective, et cette perspective, c'est le localisme heureux. C'est-à-dire, en gros, on nous dit, bon, l'économie est mondialisée, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais vous allez pouvoir faire des choses localement. Et ça, c'est un discours qu'on voit se développer dans les institutions, et y compris dans le discours des grandes puissances économiques. Et derrière, ce discours localiste sert de caution. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est ce que vous défendez, bien au contraire, mais sert de caution au démantèlement de l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on transfère des compétences au local, dans un contexte d'austérité en plus, eh bien, on a un recul de l'État, mais si vous voulez, c'est pas, c'est un recul très particulier. C'est le recul des services publics, c'est l'austérité qui est transférée aux collectivités locales, parce qu'on réduit les budgets les dotations aux collectivités locales. Et en fait, on est dans une mécanique qui consiste à concentrer les pouvoirs, les grands pouvoirs économiques et politiques à l'échelle supranationale, et en fait à décentraliser la gestion des conséquences de la mondialisation. Et par exemple, sur les services publics, la décentralisation aujourd'hui permet la privatisation.
D'accord.
Ça ne permet pas du tout l'appropriation par les citoyens. Ça permet la privatisation.
J'entends l'argument. Mais ce qui peut-être fait défaut dans cet argument, c'est que vous semblez considérer que tout ce que fait l'État est bien. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en situation Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en situation de dérèglement climatique, d'effondrement du nombre d'espèces et de violences policières par ailleurs? C'est qu'on a plein d'exemples criants sur lequel l'État, y compris par ses services publics, est défaillant. Et donc, le discours localiste n'est pas qu'un discours, et ce n'est pas que du local, c'est ce que disait Pinard au début, c'est une réappropriation, en fait, citoyenne, plus ou moins radicale, contre un État qui n'exerce pas, en fait, sa mission telle qu'il devrait l'exercer. Et moi, je voudrais finir, juste parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais par une question que je vous pose à tous les deux, c'est... Ces textes de Bookchin sont anciens, comme on lit depuis le début. Le contexte dans lequel on est, qui est ce contexte de dérèglement climatique et de crise majeure et irréversible des biodiversités, ne recrée-t-il pas un espace, ne réouvre-t-il pas de l'espace à une nécessaire réappropriation, en fait, de ces décisions, et notamment sur comment est-ce qu'on produit des ressources, comment on extrait de l'énergie, comment on fait l'eau? Est-ce que, plus que jamais, vu l'urgence qu'il y a aujourd'hui à changer complètement les politiques nationales, compte tenu de l'échec absolu des États, malgré leur discours, pour le coup, à lutter contre le changement climatique, est-ce que ce contexte-là, il ne redistribue pas un peu l'écart, ce contexte de climat?
Je veux bien commencer et prendre quand même un peu de temps.
Rapidement, parce qu'il reste...
Oui, rapidement, mais j'ai assez peu parlé. Ce que vous dites n'est pas vrai. C'est-à-dire que je ne pars pas du principe que tout ce qui est national est bon.
C'est ce que vous sembliez dire.
Lisez le livre, c'est pas ça du tout. Je reconnais, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est dans un État libéral. C'est pas le sujet. Je ne défends pas l'État tel qu'il est. Je défends l'État sur le principe, et là on est d'accord, l'État c'est nous. Et je défends le fait qu'on se réapproprie l'État, qu'on se réapproprie l'État démocratique. Ce qui veut dire changer les structures de l'État. Alors après, comment
C'est pas cette option-là, pour comprendre du coup ce que vous vous situez.
Mais par des réformes institutionnelles.
Okay.
Il va falloir réformer l'État.
Comme un changement de République, par exemple. Si on...
Comme un changement de République, par exemple, comme une modification de la Constitution sans changement de République. Enfin, je veux dire, c'est secondaire. Mais il faut modifier les institutions. Il faut modifier les institutions nationales comme il faut modifier les institutions locales. Et ce que je propose dans le livre, c'est de réfléchir ensemble ces deux changements. C'est pas du tout de conserver l'État ou de restaurer celui des Trente Glorieuses. Hein. Si vous avez lu ça, c'est pas dans mon livre.
C'est une stratégie de reconquête de la souveraineté nationale et populaire.
Exactement. La souveraineté nationale et populaire. Ce qui suppose de changer les institutions.
Ouais.
Hein. Okay. On est effectivement prisonnier d'un État libéral et c'est absolument pas suffisant. Mais je considère qu'on n'a pas aujourd'hui de démonstration du fait que, par le local, on va pouvoir répondre à la question, par exemple, de l'inégalité des territoires. Alors, les localistes nous disent, mais on trouvera des mécanismes de redistribution des richesses entre territoires. Mais comment ? Je veux dire, là, c'est un point complètement Merci. Aveugle. Et ce qui permet, justement, la solidarité en fait. Des oui. territoires, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'État, c'est-à-dire l'institution nationale.
Okay. Final.
Moi, j'ai beaucoup d'espoir, pour vous dire, parce que je suis en train d'entendre tous les jours des différentes critiques sur la civilisation même et des critiques très radicales, nos relations avec les autres êtres et toute l'histoire de la civilisation en dehors des rapports de classe, aussi qui englobe les rapports de classe, mais qui lie toute cette domination à tous les autres, comment on va vivre dans cette planète, comment on va avoir des relations avec les autres animaux, par exemple, est-ce que je vais tirer par le cou, comment je vais avoir des... Donc une réflexion et des essais un peu plus complexes. Donc c'est cela qui me donne espoir. Et aussi, dans les luttes, on commence à créer des choses transnationales contre ces multinationaux. Par exemple, avec les féministes italiennes, on a créé des espaces de coordination locale, c'est-à-dire de Genova jusqu'au Marseille, et aussi de Nord dans des autres endroits. On n'a pas besoin de passer par le national, Paris ne sait pas, mais nous organisons plein de choses, mais entre nous, et parce que nous connaissons bien les Méditerranées, avec les féministes tunisiens, etc., nous réunissons une fois par mois, mais juste nous avons créé ces sentiers-là. Donc, et je pense que il faut pas seulement penser à Bouchine, il faut le redécouvrir, ou pour la France, découvrir, et prendre des choses, mais une théorie ne dit pas beaucoup de choses. Il peut dire des choses intéressantes, sans féminisme, ou sans antimilitarisme, sans d'autres ressources, on est assez faible. Mais aussi, moi, je fais la grève, je veux que... il faut être acrobatique. Il faut lutter dans tous les espaces.
Ça, on est d'accord.
Bon, ben, merci beaucoup tous les deux. Il faut qu'on termine là, mais la discussion, on pourra la reprendre d'une manière ou d'une autre dans d'autres contextes. Alors, en préparant cette émission, on a farfouillé sur Internet et on est tombé, en fait, sur cette chose que nous allons écouter maintenant, c'est-à-dire un discours de Debbie Bouchine, la fille de Murray Bouchine, figurez-vous, mais remixé avec un peu de house music. Et donc, on vous laisse écouter ça quelques secondes. And it heals our rift with the natural world. And when we start to think about that form of organization, well, the municipality becomes a very logical arena to look at. And he was, of course, a student of history and a student of cities. And so he started to talk about how it would be that in cities and towns, people can come together beyond even class distinctions, but actually as neighbors and friends, community members who care about their environment, who care about each other. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour cette discussion, d'avoir apporté vos arguments. Merci beaucoup Fabien. Et merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Et on vous dit à bientôt sur Mediapart.
Cette discussion va continuer.